Christian.
Oui. Ben moi, c'est plus en fait, comme invité Michel, par le bout de comment ça se passe, puisque bon, moi j'ai travaillé sur les, pour rebondir sur les individus, mais sur les dirigeants. Hein, et c'est toutes ces relations, tout ce qui se passe. Moi, je partage complètement l'analyse où c'est un ensemble en fait, hein, et quelquefois interchangeable. Comme Krasuki qui passe au responsable des intellectuels, au directeur de la VO, membre du bureau politique, après secrétaire général de la CGT. Je veux dire, c'est, ça se fait, lui-même l'explique bien, Krasuki. Il dit, c'est facile de passer de la CGT au Parti communiste, c'est plus difficile, comme il dit, parce que dans la CGT, il y a plus de mal à se faire reconnaître, à gagner une légitimité de partout les syndiqués, alors que dans le parti, un beau matin, il y a un congrès. Le gars, il se trouve au bureau politique, comme tout le monde dit, c'est bien, c'est un ouvrier, aux intellectuels, c'est encore mieux. Bon, donc, non, mais on est bien obligé de le prendre aussi comme ça, parce qu'il y a aussi la CGT, ce que sont les secrétaires généraux, et en fait, on en a, dans ceux qu'on cite, il y avait Frachon, on le met à part, mais Segui, comme Krasuki, il n'y a pas d'ordre, en fait, parce qu'ils étaient presque interchangeables, c'est des familles de résistants, résistants eux-mêmes, après, c'est-à-dire en plein dans le moule des frères de Frachon, en plein dans le moule, et il y a toujours avec eux, au bureau politique, des dirigeants de la CGT qui ne sont pas secrétaires généraux, qui vont être très importants par rapport à la suite, et par rapport aux périodisations, hein, j'ai pris mes notes, moi, à la fois je partage et il y a des nuances, c'est que c'est Guy qui est censé amorcer là, hein, mais il le fait de toute façon suite à le décrocher, hein, il est dans la continuité, hein, de 64 en fait, et ce qu'il propose à la CGT en 1970 au CCN et au Congrès de la Métallurgie, c'est que la CGT tienne compte de 68, qu'elle soit davantage de masse, hein, qu'elle reflète davantage la diversité du salariat, etc. Mais il souligne bien, il est clair, il n'est pas question de prendre des distances particulières avec le parti. Alors on peut dire qu'en étant plus de masse, fatalement, elle prend des distances, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Et la période qui va venir va le désavouer, parce qu'il en a parlé en 70, mais ça va se perdre dans toute cette confusion qu'il y a autour du programme commun, ou la CGT, mais toutes ces fois, et la CFDT aussi à sa façon rapidement, d'une autre façon, dans le programme commun. C'est aussi le moment où, du côté du Parti communiste, on regarde des militants de la CFDT, arrivent dans les directions départementales des gars de la CFDT, et je vois moi dans le Calvados, il arrive, y compris au bureau fédéral, un gars de la CFDT. Et parce que aussi, on a une CFDT qui, ben d'ailleurs, elle passera pratiquement en basse à sud de l'État. Hein. Et donc, on sent bien que cette CFDT-là, elle peut basculer du bon côté. Et il y a un investissement très important de la CGT ça vient au comité central, hein, puisque Krasuki explique la méthode qu'il propose que les permanents de la CGT, et il en a discuté avec la CFDT qui est d'accord, que les permanents de la CGT s'investissent dans la bataille des législatives. Alors, va arriver 78. Mais 78, je parle sous le contrôle de Roger. Il y a aussi la panique, hein, de ce qu'est 78. Et tout le monde cherche un peu comment on va se sortir. Je parle, la CGT est partie. Comment on va se sortir de la situation dans laquelle tout le monde s'est mis. Et Segui, il sent une fenêtre de tir pour remettre d'actualité ce qu'il avait proposé en 70, ces fenêtres de tir qui pense que marcher, parce que ça se règle, on revient à côté familial, hein, je ne sais pas qui a parlé du côté familial, mais ça se règle, on a des témoins, hein, à la chasse et tout, on en discute, c'est prêt, t'es pas prêt, on va pouvoir y aller. Et il y va soutenu par Marché, il y a eu la fête de l'UMA.
Il croit.
Ah bah oui, mais ça... Attends. Et il y a eu la fête de l'UMA. Marché a promu l'URSS et nous. Enfin, il se fait un certain nombre de choses à ce moment-là, en septembre, octobre. En octobre, tu l'as lu, il y a ce fameux comité central où Marché présente ses guillemets au comité central en disant voilà ce que Georges va vous expliquer, ce que va être le 40e congrès de la CGT. Donc ça met aussi un peu d'eau dans le. Dans la détermination de Segui à prendre ses distances avec le parti, il explique, non sans maladresse, parce qu'il s'en prend aux dirigeants, il s'en prend aux permanents, et ça faut jamais. Enfin, c'est une recette. Faut jamais s'en prendre aux permanents, d'autant que le rôle de ce comité central-là, c'est d'irriguer le pays, et c'est que les délégations qui vont arriver en 70, au Congrès soient un peu portées par ça. Sauf que ça ne va pas marcher, puisqu'entre-temps. Et entre-temps, il va y avoir un volte-face hein, du parti dès janvier. Hein, il y a un cessez sur les entreprises. Enfin bon, on rectifie complètement le tir. Et à partir de là, il va falloir attendre, parce qu'il va se passer beaucoup de choses entre deux. La première fracture, on va appeler ça comme ça, je mets à part 56, hein, où il y avait déjà eu un peu de flottement, mais c'est la question de l'Afghanistan, qui quand même... secoue fort hein, au niveau des non seulement des responsables de la CGT, mais dans le pays. Et à partir de là, d'ailleurs, il n'y aura plus de mouvements dans la CGT qui relèvent des batailles sur l'international. On a fini l'Espagne, quand il y aura la Pologne, il refusera d'appeler à la grève. Enfin bon, l'Afghanistan fait charnière. Et il va falloir, on revient à une période importante, ce qui va être 84, cette séquence de 1984, comment elle est gérée par le départ des ministres communistes, comment on fait face à cette situation, et l'attitude de Krasuki, qui a lui à l'expérience de tout ce qui s'est passé avant, y compris son rôle à lui. Et il va être, je pense que c'est le premier dirigeant dans l'histoire de la CGT qui publiquement va prendre ses distances avec le parti, puisque c'est l'affrontement. Alors il n'est pas tout seul à prendre, hein, puisque les élus communistes en prennent aussi pour leur grade, mais c'est le premier qui va s'affronter à Georges Marché. Alors dans un contexte où Henri, il est porté aussi par la perestroïka qui arrive, et lui, il a fait vraiment le choix du communisme porté par Gorbatchev, mais il a contre lui qui interviennent au comité central, Vianney, Varchelag et Dutheil. Dutheil plus timide, mais sans compter ceux qui ne disent rien. Et dans ceux qui ne disent rien, il y a Seki, qui est encore au comité central, mais qui aurait eu l'opportunité là, hein, à dire, bah oui, Henri a raison, après la suite, on la connaît bien, c'est que Vianney deviendra lui le champion de la prise de distance avec le parti, mais en pleine, j'en parlais encore un instant avec Michel Mazot, en pleine connivence avec Robert Hue, en fait, hein, ça arrange tout le monde de ne pas avoir au bureau, je ne sais plus s'il s'appelle déjà le bureau national, mais de ne pas avoir au bureau national un dirigeant de la CGT au moment où va arriver. Alors, ça, c'est antérieur, mais ne parlons même pas de la période de la gauche plurielle de 97-2002, où là, on faisait référence à l'énergie, où il y a un vrai deal hein, qui est venu, je ne sais pas si tu es au colloque de l'IHS, où un vrai deal entre les cheminots EDF, Jospin et Robert Hue. Hein, tout le monde n'est pas au courant. Jospin a dit qu'il faut que j'avance sur les questions de la conformité à l'Europe. Hein, à l'Europe. Si je touche à la SNCF, et il se tourne vers Guesso, qui est ministre, Guesso ne va pas pouvoir rester ministre et je tiens à ce qu'il reste. Et donc il n'y a pas de choix, puisque ce jour-là, ils ont invité Denis Cohen, qui est le secrétaire de l'énergie. Il dit qu'il n'y a pas d'autre choix que de taper dans EDF. Et la machine la se met en route. Et
c'est...
Merci.
Serge.
C'était pour embrayer sur cette question de la manière dont tout à l'heure Michel a évoqué cet épisode fondateur de la vision de la direction unique. Parce que c'était un idéal type, évidemment, la direction unique. mais ça, finalement, sous des formes différentes, ça a quand même perduré très longuement. Et ce que tu viens de décrire, c'est la fin de cet idéal type, ou même l'incompréhension même de ce que ça signifie. Ça n'a sans doute plus beaucoup de sens. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi ça n'a plus de sens. On n'a pas évoqué Frachon. Il est évident que Frachon, à lui seul, en lui-même, représente, après beaucoup de tâtonnements que Michel a évoqués, les tâtonnements de l'ouvriarisation avec les anciens dirigeants qui étaient contre la conception du parti, les anciens syndicalistes autour de Monnat, de Rosmer. Bon, Mousseau arrive lui-même avec sa manière de concevoir le syndicalisme comme un syndicalisme fonctionnant à part égale avec le parti, sinon en surplomb même sur le monde ouvrier. Tout ça après des épisodes de volontarisme politique extrêmement fort entre 26, 27 et 32. Et Frachon va être l'homme de l'équilibre et qui incarne la direction unique au sens où lui-même est à la fois un dirigeant communiste. Il a d'abord été il a été un syndicaliste révolutionnaire, il est un dirigeant communiste, puis il devient un syndicaliste de la CGT majeur sous le Front populaire, et il devient un dirigeant de la résistance communiste clandestine fondamentale dans la drôle de guerre. Il est l'homme qui tient à bout de bras l'organisation. Et cette personne va, en quelque sorte, durablement, ben Michel le connaît mieux que moi toute cette histoire, mais c'est tout à fait intéressant de voir que c'est lui qui l'incarne. Autour de lui, il y a toute une série de gens qui sont à l'unisson, mais l'équilibre. Et pourquoi je disais ça? Parce que quand j'ai fait un petit film, un travail avec Segui sur le parcours de Segui, et comment lui, Segui, arrive avec Frachon au secrétariat général, par les cheminots, etc. Il me dit, dans les discussions, lui n'avait pas perçu ça. Pour lui, il n'avait pas la conception de la direction unique, Segui. Et son appartenance au Parti communiste, c'était quelque chose qui n'était pas du tout théorisé de la même manière. C'était à la fois culturel, lié à la résistance, lié à un engagement politique général, mais pas en termes vraiment d'organisation. Sa culture d'organisation, c'était le mouvement syndical. Et il se trouve propulsé dans une situation qui est 67, 68, 69. Pourquoi je pense 67, 68, tout ça est connu du point de vue de l'histoire politique générale et sociale. 69, c'est au bureau politique, et puisqu'il y est à ce moment-là, la question de la succession de Waldeck-Rochet. Et les dirigeants syndicaux sont... qui siègent au BP, sont dans une situation où ils ont à donner leur avis sur le secrétaire général. Si on regarde bien du point de vue de l'histoire globale, j'ai l'impression que c'est pas loin d'être la première fois, pour des raisons historiques. Il y avait eu le débat en 1932 autour de Giton et de Frachon, à l'international communiste, c'est une histoire encore à Moscou, au 12e plénum, on ne va pas rentrer dans ces arcanes, mais du point de vue de l'histoire française et de la mémoire collective, de l'organisation, tout ça c'était enfoui, en plus c'était nié, c'était occulté, l'international communiste n'avait jamais existé, et tout ça. Donc, et il me dit, il l'a redit à différentes reprises, nous avons eu une grande inquiétude à l'égard de Georges Marchais. Et Frachon et moi. Et il le dit, il l'explique, et il l'explique d'une manière dont c'est un ouvrier, c'est pas le problème de sa sociologie, c'est le problème de sa culture politique. Voilà la formule qu'il emploie. Il n'avait pas assez de culture politique. Et c'est quoi la culture politique? C'est justement la vision d'ensemble. Et ça, c'est assez intéressant, assez révélateur de ce système où il y a vraiment, là, vraiment interaction. C'est-à-dire que ces syndicalistes, je ne sais pas si c'est Segui ou si c'est Segui avec Frachon. Hein, j'ai un doute que sur ça. Avec le temps qui est passé, j'ai fait l'entretien.
Quelle année c'est, tu l'as fait,
hein?
Tu l'as fait après 2000, par là.
Oui, c'est ça. Bon, il y a de la réinterprétation, il y a beaucoup de choses. Il n'en reste pas moins qu'il y a eu cette prise de distance. quand tu interviewes pour le même épisode Roland Leroy, dans le même moment, tu as une représentation du même épisode qui est évidemment un peu différent, mais qui se rejoint au sens où Roland Leroy, lui, en interne, parce qu'il y a plusieurs discours possibles de Roland Leroy, mais explique que ça, c'est les Soviétiques et c'est Gaston Plissonnier qui n'avaient pas confiance en lui parce qu'il n'était pas un homme fiable suffisamment aux yeux du parti. Mais et il en rajoute un peu à propos de Marché qu'il y avait plus de moyens de le tenir. Bon, ce qui n'est pas bouleversant d'originalité, même s'il a fallu beaucoup de temps pour qu'on le roi dise ça. Hein. Non, mais pour lui, c'était intéressant. Pour nous, l'histoire générale, pour nous, ça l'est moins. Ce que je veux dire, c'est qu'un personnage comme Georges Ségui, très intéressant, progressivement, en étant au bureau politique, acquiert une culture de dirigeant politique aussi. Oui, oui. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Il prend une nouvelle dimension. Et l'épisode que tu as raconté sur la manière dont Krasuki est un peu seul, à un moment donné, il ne faut pas oublier que, si ma mémoire est bonne, je parle aussi sans mes notes, pour autant que j'en ai, et sans toutes les dates, mais c'est 82, le départ de Ségui, et qui se fait dans des conditions où les mêmes dont vous parliez, Marcholac notamment, attaquent Ségui, mais où Krasuki, par contre, fait écho. Et donc, il y a un ressentiment à quelques années, ce qui arrive à Krasuki, pour Ségui, l'interprète comme ce qui lui est arrivé.
Il connaît la musique. Bien sûr.
Il connaît la musique, exactement.
C'est pour ça qu'il ferme sa gueule.
Voilà. Non. Donc là, on voit bien. Non, mais donc on voit bien qu'il y a une dimension politique profonde. Il y a une dimension. Moi, je m'intéresse derrière les problèmes d'hommes. Ces dirigeants syndicaux sont devenus des dirigeants politiques du syndicat pour qui ce qui se passe avec la direction du parti et surdétermine beaucoup de choses et leur apparaît comme un handicap, mais en même temps dont ils ne peuvent pas se passer. Je pense que Krasuki était beaucoup plus politique que Ségui, par tout son parcours, toute son histoire, comme tu l'as dit. Mais entre-temps, Ségui l'est devenu. Les réflexions quand même avec Boineau et tout ça sur la syndicalisation de masse, sur la manière de concevoir le 40e congrès, tout ça, avait quand même une dimension politique globale, générale, à mon avis. Et ça, c'est pris à contre-pied avec les débats internes dans le Parti communiste qui interprètent les difficultés du Parti communiste comme ayant perdu ses références identitaires et ayant perdu ses références ouvrières, notamment. Et donc, le paradoxe, c'est qu'une partie des dirigeants du Parti impute à la CGT à ces errements programmatiques, de soutien de la gauche, etc., les difficultés qu'ils rencontrent à l'égard du monde ouvrier, quoi. Donc, il y a vraiment... C'est pour ça que là, on est dans un moment d'écosystème vraiment intéressant. On a presque des partages... des inversions de rôle. Voilà. Et la dernière chose, c'est quand moi, j'ai fait dans le même mouvement... l'entretien avec Bernard Thibault, et que je lui parle de ça, et que je lui fais écouter ce qu'a dit Ségui. Je l'avais dit à Ségui, est-ce que tu acceptes que Bernard Thibault écoute ce que tu dis? Et lui, Thibault, me dit, mais oui, mais on a changé d'époque. On a changé d'époque, ça n'est plus... c'est fini. C'est fini. Et est-ce que c'était vraiment fini quand j'ai interviewé Thibault? C'était 2007, 2008. Est-ce que c'était vraiment fini? Je ne suis pas sûr.
Voilà. Oui, juste une petite question, puis je suis obligé, j'ai un train pour la Normandie que chacun connaît, difficile d'accès. Je place quand même, on parlait de périodisation, mais c'est ce passage de 85, gros là.
85 et 87.
C'est là. C'est là que la CGT se fait engueuler. Parce que, y compris, comme la CGT se fait engueuler, on sait comment ça se passe. Ça ouvre les... ça ouvre tout au comité central. Moi, je suis à ce moment-là au bureau fédéral du Calvados, où il y a autour de la table, blam, 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 tous les lundis soirs, jusqu'à pas d'heure, tout le monde est là. Et le camarade du comité central qui suit la fédé du Calvados, qui est Comperon, il fout une engueulade aux camarades de la CGT, de Dive. Enfin, tout le monde y passe. Voilà. En gros, qu'est-ce que vous avez... Et tout ça, pourquoi ? C'est parce que les camarades de la CGT ont été soutenus par Mexando, qui est le socialiste, contre la fermeture de l'entreprise. Bon. Et lui, il en fait toute une histoire. Et, mais c'est comme ça. Hein. Et la machine se met en route, là, où les gars de la CGT, parce que ça rejoint ce qui a été dit, où en fait, il y a ce qui se décide, et puis après... On fait ce qu'on peut sur le terrain. Et à partir de là, c'est de toute façon, quoi qu'on fasse, on se fait engueuler, on va suivre notre propre ligne. Et comme derrière, deux ans après, c'est 89, bon, après, la suite des événements. La bascule, enfin, moi, je la pose là. Jean, excusez-moi.
Moi, j'avais deux remarques, mais c'est à vous écouter, parce que je ne suis pas vraiment spécialiste de la question. Ça avait été posé, c'était le rapport du PCF au monde syndical, et vous avez tous les intervenants, même Stéphane Sirot, posé la question de ce qu'il appelle l'écosystème, mais ce qu'on pourrait appeler l'aller-retour permanent entre parti syndicat, syndicat parti, et l'emprise des uns sur les autres. Et Serge, là, ce que tu as dit à la fin, participe de ça, sur le rôle de Segui à un moment donné. Roger, sur la typologie des modèles, et ce que Frédéric Arbrichy aussi, on voit bien comment on peut l'appréhender. Et puis si on l'appréhende du côté de l'histoire politique de l'organisation, en travaillant sur les archives quand même depuis quelques années, des bureaux politiques, des secrétariats politiques, on a évoqué les comités centraux, mais dans les PP, bien sûr, il y a la présence, la place des dirigeants de la CGT dans le parti, et de ce point de vue-là, il y a ces rapports. On peut voir quand même des rapports importants sur les grèves. Le parti a aussi un rôle, a aussi un rôle de suivi des grèves et une attention particulière sur les grèves. Il y a des rapports qui ne sont pas simplement syndicaux. En 36, il y a des rapports envoyés à Moscou sur l'état des grèves. 47-48, bien sûr. Alors on va dire que peut-être c'est sur des moments particuliers. Mais 1963, la grève des mineurs, et tout ce qui s'ensuit de la logique de la grève des mineurs, c'est super intéressant de voir comment on en discute au bureau politique, comment on en discute au secrétariat. C'est-à-dire que là aussi, il y a des enjeux, me semble-t-il, d'une sociabilité qu'il faudrait retrouver, en fin de compte, refaire ce que tu as fait sur les réseaux, de penser les logiques de réseau. Et que ça nous permet de dépasser simplement les histoires des organisations et simplement l'histoire de subordination ou de contrôle ou de choses de ce style. Mais, du coup, il y a quand même des habitudes de prise. On est quelques-uns à travailler sur le journal de Torres en ce moment, hein, puisque Torres a tenu un journal de 1952 à 1964. C'était pour apprendre à réécrire. On va l'éditer. Hein.
C'était un document qui était connu depuis...
Il y a les carnets,
il y a le journal. Le journal,
le carnet commence à être avant-guerre.
Le journal, c'est après son attaque hémiplégique, qui rapporte à réécrire de la main gauche. Et puis ensuite, il écrit de la main droite.
L'existence, je veux dire, de ce journal, elle était connue...
Elle est connue...
Anne Vivorka l'a
utilisé pour
sa biographie.
Et Boris, elle l'a utilisé dans une optique. Là, on essaye de le faire un peu comme on avait édité les carnets Cachin il y a quelques années, avec un appareil critique, et puis voir aussi ce qu'il y a de politique dedans. Mais par exemple, le 27 avril 1963, voilà ce qu'il écrit. « Lu le rapport que présentera Frachon au prochain congrès de la CGT. Le congrès, il n'aura lieu que le 12 et 17 mai. Le 34e congrès. Ça veut dire que quand même...
Il a soumis bien
en avant. Le rapport de Frachon, il est proposé à Torres. Il est proposé aux dirigeants historiques du parti. Et il est clair que... comment ?
Absolument.
Cette jonction permanente. Et au congrès, en plus, en 63, alors, j'ai évoqué la grève des mineurs, mais c'est le début de l'idée du programme commun. C'est déjà lancé. Depuis 62-63, le PC commence à distiller ça, la logique de l'unité, et bien qu'est-ce qu'il dit au congrès de la CGT? Il faut voir le fait capital d'aujourd'hui qui est que la classe ouvrière recherche et veut réaliser son unité. Tout pour l'unité d'action, tout pour rapprocher le moment d'unité syndicale, tel est notre mot d'ordre syndical. Donc d'un côté c'est unité syndicale dans les luttes et unité politique face au pouvoir personnel. Et ce qui est intéressant, bien sûr c'est conjoncturel, mais je suis persuadé que si on faisait une étude sur un temps long, on retrouverait des éléments de ce type, ce qui participe un peu à ce que vous aviez évoqué, et j'essayais de l'éclairer par des choses empiriques, historiens qui vont chercher des exemples.
Je peux faire quelques remarques. Alors d'abord, le modèle, c'est vrai qu'il faut toujours faire attention au modèle. Le modèle n'est pas une réalité. C'est effectivement un idéal type, mais un idéal type n'est pas simplement une abstraction.
Non.
C'est-à-dire, c'est quelque chose qui permet d'organiser la réalité. Et je dirais que moi, ce qui m'intéresse, alors d'abord, dans les modèles, tu avais tout à fait raison de dire que c'est très réducteur d'en retenir trois. Il me semble simplement que dans l'espace européen, qui est celui, on va dire, du mouvement ouvrier, ce sont les trois modèles idéal type qui fonctionnent, j'allais dire, d'une certaine manière. Mais moi, ce qui m'intéresse dans l'idéal type, là, nous parlons de partis syndicats. Mais moi, quand je dis galaxie, c'est il n'y a pas que parti syndicat. Il y a des associations, il y a du travail intellectuel, il y a des revues, il y a le communisme municipal qui fait partie, j'allais dire, de cet ensemble-là. Et ce qui m'intéresse, moi, dans cet idéal type, c'est l'articulation. C'est-à-dire, on est dans des sociétés, des sociétés, on va dire, capitalistes, allons vite, hein, elles se construisent sur la base de la dissociation des champs, des sphères, le politique, l'économique, le social, le culturel. Et le problème, évidemment, pour qui agit dans la société, c'est qu'on est obligé de tenir compte de la séparation, donc de la spécialisation. Le parti, le syndicat, c'est pas la même chose. Et en même temps, qui veut agir est obligé de penser l'articulation. Et moi, j'ai l'impression que quand même sur la durée de quelques décennies, on va dire des années 30 aux années 70, l'organisation politique dans la sphère du mouvement ouvrier qui réussit le plus nettement en France, hein, cette articulation-là plus là, il se trouve que pour des raisons historiques, c'est pas, il n'y a aucune fatalité dans ce constat-là, c'est le monde communiste, on va dire. Et je dirais même que pour moi, dans la crise du communisme, évidemment qu'il y a les facteurs lourds, des ouvriérisations, la crise du soviétisme, etc. Mais dans la crise du communisme, je trouve que la dissociation ou la séparation de cette galaxie est une dimension de la crise qui fait que, parce qu'il y a eu subordination et que la subordination, au bout d'un moment, est insupportable, on passe de la subordination à la séparation. Et je trouve que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la crise, j'allais dire, de cette séparation. C'est, on se trouve devant un mouvement aujourd'hui qui est désarticulé et que c'est, j'allais presque dire, un des grands problèmes de la crise politique elle-même. Voilà. Donc, moi, je le fais fonctionner comme ça, non pas comme une sorte de tiers-mur. Il y a un modèle et le parti applique ce modèle. Mais deuxième chose, Michel, tu sais, ton exemple, le Nord, le travaillisme. Pour moi, ce n'est pas travaillisme, c'est réformisme. Je vais te dire pourquoi. Il est dommage qu'il n'y ait pas Stéphane, parce que dans le bouquin de Stéphane sur Thorez, il y a un chapitre sur le Thorez syndicaliste qui est passionnant. Parce qu'il dit Thorez, son expérience, c'est pas son ancrage, ce n'est pas le syndicalisme révolutionnaire, c'est le syndicalisme des mines. Et le syndicalisme des mines, évidemment, on peut le prendre sur le modèle travailliste, mais c'est aussi le côté réformiste, et je le prends là, non pas du point de vue, j'allais dire, négatif, mais ça explique, pour une part, ce qui est la caractéristique de Thorez, et qu'à mon avis, dont hérite le communisme, c'est ce mélange d'une certaine radicalité renvoyée au modèle soviétique, et un ancrage dans ce que Thorez appelle la lutte pour le beefsteak, ne pas mépriser la lutte pour la petite revendication, etc. Et je trouve que la culture du Nord, c'est ça, et qui est, d'une certaine manière, la culture, j'allais dire, qui va devenir dominante à l'intérieur du communisme. Et j'ajoute que, du coup, ça pose un problème toujours, dès l'instant où tu introduis réformisme. Et je pense que dans l'histoire du communisme, ça se règle sous la forme du balancier. Et ça a à voir avec ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Christian. Parce que, par exemple, tu dis à juste raison, les communistes, au fond, digèrent le programme, au fond, réformiste ou keynésien, appelons-le autrement, qui est celui de la CGT à partir de la période d'avant-guerre. Oui, il l'intègre. Mais n'oublie pas qu'en 1947, il y a le retour du bâton. Quand les communistes sont écartés du gouvernement et qu'il faut passer d'une culture de gouvernement à une culture critique, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la CGT? C'est on remet en cause les comités d'entreprise en disant c'est de la collaboration de classe. On remet en cause les babubis, bobus, comme on dit, etc. C'est-à-dire, en fait, le souci du résultat concret au nom de « c'est de la collaboration des classes ». Et j'allais presque dire, ça fonctionne comme ça par balancier, c'est-à-dire des périodes où on veut mettre l'accent sur le fait que le danger principal, c'est l'opportunisme de droite, et donc, bam, on tape sur les syndicalistes qui pratiquent ce que tu pouvais appeler d'une certaine façon des ébauches d'intégration dans le système de l'État, de la gestion, de la co-gestion, et les moments en sens inverse où, contre le sectarisme, on valorise le pragmatisme, le sens du concret, etc. Et ce que dit Christian à propos de Krasucki, qu'est-ce qui se passe 81-84, le PC pratique la gestion loyale, si je puis dire, du gouvernement. Quand il quitte en 84, retour de bâton. Plus à l'intérieur de l'organisation, il y a la montée des critiques internes avec les rénovateurs, puis reconstructeurs, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, d'un côté, on utilise les syndicalistes, ce qui n'a pas été évoqué, hein, c'est on fait monter des syndicalistes à la tête des fédérations pour remettre de l'ordre, c'est-à-dire on va chercher des dirigeants syndicaux, par exemple dans le Puy-de-Dôme, en Meurthe-et-Moselle, on fait monter les secrétaires départementaux à la direction de la fédération. Et on tape sur la CGT accusée d'être trop molle. Et tout ça parce qu'il faut retourner vers la lutte des classes. Voilà. Et donc, à mon avis, ce qui explique plus, j'allais dire, au fond, le rapport dans ce cas-là au syndicalisme, c'est moins l'idée, c'est plutôt un modèle travailliste qu'un modèle social-démocrate, que cette tension permanente à l'intérieur de l'histoire communiste entre les moments où il faut être large et donc intégrer, j'allais dire, du keynésianisme, du raisonnable, du réaliste, etc., et les moments où, au contraire, il faut tordre le bâton dans l'autre sens, et dans ce cas-là, etc. La diversité, c'est vrai, c'est-à-dire toute description, par exemple, du communisme ou du syndicalisme comme une sorte de bloc monolithique est évidemment une erreur. Mais en sens inverse, il faut faire attention qu'il y a l'autre élément qui est que le communisme ou le syndicalisme est toujours divers, mais il y a ce qui unifie. Et ce qui unifie, ce n'est pas nécessairement des directives, mais c'est par exemple une culture. Et je pense qu'il faut tenir compte, à un moment donné, un écosystème, au fond, comme tu dis toi, Michel, souvent, c'est-à-dire il faut tout à la fois toujours travailler sur ce qui spécifie et donc qui complexifie le regard, l'objet que l'on étudie. Il faut cette complexification, mais il ne faut pas perdre non plus aussi le sens de ce qui peut à un moment donné unifier. Et le problème, me semble-t-il, dans cet écosystème qui touche à certains moments à la contre-société, à certains endroits, à certaines périodes, à certains lieux, c'est qu'il faut comprendre tout à la fois ce qui fait que ça se reproduit, et donc il y a des éléments d'unification, et quand les éléments d'unification ne fonctionnent plus, il y a de la désagrégation. C'est agrégation, désagrégation devrait être pensée en même temps. Voilà. C'est pour ça que, tout dernier truc, il y a une absence dans notre réflexion, mais c'est une absence qui mérite d'être travaillée, c'est qu'on n'a pas parlé des cellules d'entreprise. Or là, il y a quand même un débat qui est un débat fondamental dans l'histoire du parti. Pas simplement avec la bolchevisation où on a réglé le problème en supprimant les autres, mais à partir des années 30, les cellules d'entreprise reculent. Et en réalité, l'action ouvrière, l'action dans le monde ouvrier, à l'intérieur de l'entreprise, ne passe pas par le parti, mais passe par le prisme de la CGT. Sauf qu'il y a des moments où il y a des contre-tendances. Par exemple, les années 70, incontestablement, il y a un mouvement de création de cellules d'entreprise. À partir des années 60, hein, quand Marché arrive à la tête de l'organisation, il lance le mouvement de reprise des cellules d'entreprise, partant de l'idée que le syndicalisme, ça ne peut pas suffire. Donc, il faut des cellules d'entreprise. Or, ça ne se fait pas sans difficulté. Il y a des tensions à l'interne. Ça se discute, ça provoque des affrontements à l'intérieur du parti, entre syndicalistes, communistes, enfin, sans que ce soit les syndicalistes en bloc ou les communistes en bloc, là encore. Hein. Mais, le mouvement de cellules d'entreprise, ça monte jusqu'en 74 à peu près, et après 74, ça diminue. À mon avis, il faudrait faire aussi intégrer dans la réflexion sur l'articulation cette question du rapport, par exemple, dans l'entreprise, entre les cellules d'entreprise et la question des syndicats. Même si, globalement, je pense que le rapport au monde ouvrier sur le lieu du travail, d'une certaine manière, a été sous-traité au syndicalisme. Globalement, ça a été sous-traité. Mais ce qui n'a pas été sans poser des problèmes internes, des problèmes de concurrence, parfois, hein, aussi de légitimité, qu'il faudrait peut-être... mais là, encore une fois, je dis, c'est à travailler. Hein. Moi, j'ai pas de... À part ce que je dis, hein, sur les statistiques, grâce au cahier d'organisation, sur l'évolution de statistiques des cellules d'entreprise, mais ça mériterait, me semble-t-il, un travail, quoi, un travail particulier. Oui ?
Il y a une petite question aussi qui n'est pas évoquée, c'est la démocratie interne des organisations, parce que dans cette constellation dont on parle là, chaque organisation, elle a ses exigences de démocratie, alors qui sont plus ou moins respectées d'ailleurs. Et je pense qu'à un moment donné, c'est ça qui crée crise. Parce que quand tu dis, qu'est-ce qui fait unification ? Moi, mon expérience et ma réflexion actuelle, ce qui fait consensus, c'est les controverses. Or, dans les organisations, on a peur des controverses, d'abord. Et au contraire, les organisations qui vivent et qui se développent, c'est lorsqu'il y a des controverses, et des controverses qui se règlent par la démocratie, justement. Et je pense que c'est un facteur qui n'apparaît pas dans notre débat, là, alors que la CGT, quand même, c'est une organisation qui ne peut pas vivre s'il n'y a pas une démocratie à terme. Les partis communistes, pareil. Bah, les sources de masse, il ne peut pas vivre s'il n'y a pas de démocratie à terme.
Sur le papier.
Il a vécu longtemps sans démocratie.
Ce dont je parle, c'est la démocratie réelle, pas la démocratie sur le papier.
Non, mais ce que je veux dire, c'est ce que tu dis est vrai sur le papier. Mais dans la pratique, le Parti communiste a fonctionné sans que la démocratie interne fonctionne de manière parfaite. Je ne dis pas que sur la durée, ça ne se paie pas cher, mais concrètement, on ne peut pas dire que le Parti communiste a fonctionné sur la base de sa démocratie interne, quand même.
De quelle époque tu parles ?
Ah ben, sur la longue durée. Hein.
Ah ben, moi, l'expérience que j'ai, qui était assez courte, justement, en 68, avant que je m'attelle seulement dans les tâches syndicales, même dans le 16e arrondissement, où j'étais...
Là, on pouvait laisser la démocratie s'exprimer. Là, dans le 16e arrondissement, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, mais bon, ça...
On peut dire ça.
Vous pouviez vous diviser, vous pouviez compter.
Moi, je pense que la crise des organisations, c'est d'abord une crise de la démocratie interne. Mais ça, c'est une thèse peut-être...
Bon, ça ne correspond pas tout à fait à l'expérience de mes 26 années de comité central, mais bon... j'en fais pas une description apocalyptique, attention.
Ce qui est intéressant, c'est que on regarde le fonctionnement, ici, là, de haut en bas, mais il y a un fonctionnement plus invisible, mais on voit plus déterminant, invisible, ça veut dire que je parle pas du fonctionnement formel, quoi. Puisque formellement, on peut dire que les cellules dont tu parles, justement, avaient pour fonction d'alimenter la réflexion jusqu'au niveau. Mais à partir du moment où ça ne fonctionne plus, l'organisation se casse nécessairement le nez. Enfin, c'est mon hypothèse. Et en ce moment, Là, pour les partis politiques, c'est hélas achevé. Et le problème, il est pour les syndicats aujourd'hui.
Ah non, monsieur.
Il est pour les syndicats aujourd'hui, avec une coupure qui tente à se creuser entre, je ne sais pas comment appeler ça, l'organisation formelle, etc., et le réel.
Quand on termine une réunion...
Il faut savoir terminer.
Non, mais avant de savoir, évidemment, on sait toujours que c'est en fonction des objectifs qu'on s'était assignés. Nos objectifs ont bougé beaucoup en cours de route. On est vraiment particulièrement désolé. On a fait avec dans des situations qui sont des situations fluides, on va dire. On fait comme on peut. Juste sur un point, il y a plein de points qu'on n'a pas abordés, mais une des questions qui est assez centrale, puisque c'est vous qui m'y faites penser, c'est la logique de l'organisation partidaire et la logique de l'organisation syndicale. Sans des logiques qui peuvent avoir des forces de confluence, mais qui en même temps sont porteuses de détermination et de modalités qui ne sont pas les mêmes. Et notamment parce que la notion d'adhésion et d'appartenance ne fonctionne pas pareil, et y compris aussi la notion de représentation ou de délégation, de pouvoir, de confiance, etc. Et que les finalités, la finalité politique, même dans un pays comme la France, une grande partie de la finalité politique, c'est quand même l'élection, c'est quand même c'est pas la même chose que la défense de la revendication. Donc il y a seulement du point de vue de ce qu'on appelle la démocratie interne des organisations, des fonctionnements qui ne sont pas...
Le problème de la représentativité des syndicats, de ce point de vue-là, est venu mettre une sacrée pagaille par rapport à une culture syndicale qui ne tenait pas sa légitimité d'élection, mais qui tenait sa légitimité de résultats et de mobilisation.
Et ça, 36 et 45,
c'est ouais. C'était bien l'objectif recherché.
Ah oui, non, mais ça, c'est clair, c'est rigolo.
Dans le raisonnement, il faut l'introduire, non ?
Absolument, absolument. Mais alors moi, j'irai plus loin, mais comme j'ai retrouvé la lettre de septembre, moi j'aurais aimé aussi revenir, mais pas ici, pas cette fois-ci, mais sur ce que j'appelle la politique populaire. Parce que je crois que, d'une certaine façon, le syndicalisme, par son histoire et ses expériences et ses cultures propres, il est... Parce qu'il a besoin de résultats hein, aussi, c'est ce que tu disais. Il est davantage porteur et davantage donc en réception et en osmose avec ce que je nomme la politique populaire, c'est-à-dire celle qui se développe en dehors des institutions ou à côté des institutions, ou qui utilise les institutions sans y rentrer complètement dedans, que ne peut l'être un vieux parti d'origine révolutionnaire, mais qui s'est, de par ses succès même, institutionnalisé et qui s'est orienté vers les luttes électorales comme partie essentielle de ces luttes politiques. Le syndicalisme, alors c'est intéressant parce que là, il y aurait des choses à remonter. Le fédéralisme qui est inhérent à la CGT et qui fait que, à la fois... Ça lui permet de conserver tous ses héritages, alors évidemment pas intacts, mais ses différentes
des
couches.
Des dockers et des hôtesses voilà. De l'air.
Par exemple. Et alors, moi, alors là, tu m'amuses parce que j'ai un film qu'on avait fait, c'était avec Tanguy Perron, où on avait un énorme docker malabar qui chantait dans son coin toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Mais passons, ça c'est autre chose. Ça c'était sur les représentations viriles chez les dockers. Mais le fédéralisme. Le fait que, alors ça c'est très fort dans la culture CGT, il y a toujours la référence à l'action directe. Alors l'action directe, on s'entend bien hein, sur le fait qu'on ne délègue pas, on agit par soi-même et on ne délègue pas. Alors, à voir dans l'institutionnalisation, ça c'est un petit peu compliqué tout ça, mais ça fait partie quand même des éléments culturels fondamentaux. S'il y a une culture CGT, elle se retrouve dans ces éléments-là. Alors évidemment, c'était sans doute plus simple, j'en sais rien, mais en tout cas, quand il y avait une cohésion idéologique, politique, qui, en quelque sorte, donnait une orientation... le syndicat, d'une certaine façon, s'auto-limitait lui-même, il n'y avait pas besoin, et il se redéployait dans le matérialisme revendicatif. Et d'une certaine façon, il le faisait très bien, puisque le parti se chargeait, en quelque sorte, de donner de la cohérence à tout ça et de lui trouver une traduction politique. Mais c'était reculé pour mieux sauter.
J'entends dans ce que tu dis la lecture d'événements contemporains, là, maintenant, avec des phénomènes de résurgence dans ce registre-là, témoignent de
les héritages vivent toujours. Hein.
Comment ?
Les héritages vivent toujours.
Oui.
Moi, je trouve passionnant ce que tu dis, mais je ne suis pas complètement...
Ah non, mais c'est un chantier.
Mais c'est passionnant, hein, comme débat, parce que c'est fondamental sur les questions de politique populaire...
Et par exemple, quand la CGT se définit comme un syndicalisme de transformation sociale.
Je ne vois pas en quoi le syndicalisme est structurellement plus protégé, au fond, d'une certaine manière, de la corruption, entre guillemets, hein, de la société dominante que le parti politique via le prix des élections. Si tu prends l'exemple des États-Unis, qu'on évoquait, ce serait plutôt quasiment le contraire. C'est-à-dire les ressources,
c'est encore autre chose.
Du système sont plus fortes dans le monde syndical encore que dans le monde politique.
Ce qui n'empêche pas quand les syndicalistes américains, quand ils en ont la force et qu'ils se mettent dans la bagarre, ils mènent des bagarres terribles.
Mais ils sont, avec une détermination. Ils sont populaires et combatifs, les deux termes là ensemble, et corrompus et intégrés dans le système.
Ils sont dans la négociation, et c'est-à-dire qu'ils peuvent négocier avec tout allié qui est capable de leur apporter une force. Et alors là, sur la corruption, sur la question des dockers, que je connais un petit peu. Oui, parce qu'y compris le syndicalisme anticommuniste des dockers, il existe.
Mais évidemment.
Et il a existé jusque dans les années 2000. Au Havre, pour pas le situer. Mais la corruption est dans le syndicalisme des dockers américains, d'abord, elle n'est pas générale. Je vous rappelle que la côte ouest des États-Unis a conservé un syndicalisme de classe qui a traversé le McCarthyisme quasiment jusqu'à nos jours. Ça concernait la côte est des États-Unis. Mais le modèle, ça a été aussi... Ils sont allés chercher... Puisque les élus ne trouvaient pas chez les élus l'aide qu'ils avaient, ils sont allés et qu'ils avaient une coalition patronale administrative très forte, ils sont allés chercher ceux qui avaient des moyens illégaux relativement efficaces. Mais alors évidemment, ils se sont mis là dans une dépendance.
Ce qui me frappe dans le syndicalisme américain, c'est à la fois sa force, son caractère populaire, sa combativité incroyable. Et en même temps, le fait que politiquement, ça n'a toujours débouché sur rien du tout, du point de vue, j'allais dire, d'une pratique, oui, ou d'une politique ou de perspective d'émancipation. Donc ça, c'est pourquoi, pour moi, la politique populaire qui s'appuierait...
Enfin, au moment du New Deal, quand même, au moment du New Deal, il y a eu des effets. Attends, au bout du compte, y compris par des grèves... Hein. Parce que là aussi, les grèves de 36-37 aux États-Unis, elles ne sont pas piquées des hannetons.
Il n'y a pas qu'à l'époque, il y avait la grande Union soviétique qui posait des
hannetons. Peut-être, mais il n'empêche qu'il y a eu, à ce moment-là, un certain nombre d'avancées sociales qui...
En plus, on ne peut pas comparer les confédérations syndicales américaines aux confédérations françaises,
du point de vue
de leur capacité à véritablement fédérer...
Frédéric, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est la caractéristique française, c'est une certaine articulation du social et du politique qui a passé en particulier par le rapport entre le mouvement ouvrier et ce qu'on appelle la gauche, sous la forme de tension, et pas simplement des articulations, mais de la tension et de la complexité qui n'existe pas aux États-Unis. Et que je trouve qu'une politique qui passe justement, exclusivement par le syndicalisme est une politique déséquilibrée et qui peut ne pas conduire, qui peut être populaire, mais pas nécessairement émancipatrice.
Le syndicalisme américain est le principal financeur du Parti démocrate américain.
Absolument.
Donc c'est pas bon. Et par ailleurs, il y a un enjeu énorme du point de vue de la reconnaissance par la législation des États de l'existence même de syndicats, d'entreprises. Et donc pour eux, c'est vital, quoi. Et c'est un combat très important parce qu'une fois qu'ils obtiennent ça, ils arrivent quand même à avoir.
Non, mais c'est un système. Comment dire ? Moi, j'ai pas un jugement de valeur.
Non, mais je veux dire.
C'est me dire.
Mais en quoi, voilà. Le truc, c'est le jugement que tu as sur c'est pas émancipateur, c'est pas politique, c'est ce qui permet, c'est quoi
ça
le critère,
permis des avancées. Hein.
Quel est le critère qui permet de dire ça quand tu regardes la moyenne des salaires des ouvriers américains dans le secteur automobile protégé, enfin où là il y a des syndicats.
Où il y a des syndicats, voilà.
Où il y a des syndicats, bien
ailleurs, bien évidemment.
Oui, la stratégie, c'est du coup d'aller s'implanter dans des États où il n'y a pas de législation syndicale. Pour... Mais là, c'est quand même des acquis. Alors on peut considérer que c'est que le beefsteak, mais enfin, c'est quand même.
C'est bien.
Ah oui, mais.
Et surtout le chantier de ce que tu proposes, le chantier, qu'est-ce que c'est une politique populaire aujourd'hui? Évidemment, c'est une question qui ne peut pas
Les gilets jaunes, non,
laisser indifférent dans ce point de vue, parti et syndicat. Je vous propose d'arrêter si vous êtes d'accord, en vous remerciant.